Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour. Les attentats de janvier dernier ont replacé au centre des débats les questions touchant à la liberté d'expression, la laïcité, les religions et les phénomènes de radicalisation. Autant de sujets sur lesquels les chercheurs peuvent apporter leur expertise et à qui CNRS le journal donne la parole dans différentes émissions. Société, religion, laïcité, comment cohabitent-elles ? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui en comparant plusieurs pays, dont notamment la France et l'Allemagne. Alors, avec nous pour en parler, Anne-Sophie Lamine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Strasbourg et chercheure, je précise heureux, au laboratoire Dynamiques européennes du CNRS. Vous êtes notamment l'auteur de « La cohabitation des dieux, pluralité religieuse et laïcité » qui a été édité au PUF en 2004. Vous avez également dirigé de nombreux ouvrages, dont « Quand le religieux fait conflit », »,« Désaccords, négociations ou arrangements », qui a été publié par les presses universitaires de Rennes en 2014. Avec nous également, Riva Castoriano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et enseignante à Sciences Po, rattachée au Centre de Recherche Internationale. Alors, on citera parmi vos publications « La France, l'Allemagne et leurs immigrés, négocier l'identité » qui est paru chez Armand Collin. Vos recherches portent notamment sur les rapports entre religion et nation. Alors, avant de mettre en regard religion et nation, et peut-être il faudrait s'interroger sur le rapport entre religion et État, ne serait-ce que parce que l'État préexiste à la nation. On le sait, au XVIIe siècle, avec la paix d'Augsbourg, on règle assez simplement cette question avec la formule, excusez mon mauvais accent latin, « cuius regio eius religio », c'est-à-dire « tel prince, telle religion », autrement dit, les sujets ont la religion de leur roi. Alors, que vous inspire cette référence, Riva Castoriano ?
Cette référence est historique, c'est la fin, c'est le début des États. C'est le traité de Westphalie qui définit le territoire européen en États. Donc, c'est la naissance des États, en quelque sorte. Mais naissance des États ne veut pas dire fin des territoires. Les territoires ont été divisés déjà par religion. Et donc, les frontières étatiques vont maintenir l'identité des territoires. Les territoires vont avoir une suprématie par rapport à la conception de l'État. Et donc, ces territoires vont être gérés, dirigés par des princes qui vont représenter la religion. Et c'est ce qui va donner l'idée de sécularisme, en quelque sorte, à l'Allemagne, où l'Allemagne qui a ce pluralisme religieux de protestants et de catholiques, qui vont être dirigés par des églises qui sont considérées, même encore aujourd'hui, comme des institutions parapubliques, qui relève du droit public, donc forcément qui n'a pas la même signification de laïcité que chez nous. Et le sécularisme est représenté par l'adhésion, si vous voulez, volontaire, ou maintenant volontaire, à ces églises.
Alors on va faire un petit arrêt sur la notion de laïcité en Allemagne. Vous pourriez nous la définir rapidement ?
D'abord, je n'utiliserai pas le terme laïcité pour l'Allemagne.
D'accord.
La laïcité, depuis qu'on en parle, depuis les affaires de Foulard, est devenue une spécificité française. Alors que laïcité était laïcité, on ne se posait même pas la question. Donc maintenant, on fait la différence avec le sécularisme, où justement, les églises existent comme communautés et comme des groupes d'intérêts qui interviennent dans la vie politique et qui relèvent de ces institutions dites parapubliques, pour citer un collègue, Peter Kastenstein, et qui existent dans la vie politique. Donc si ici, en France, la laïcité, c'est le refus de la religion, là-bas, c'est l'adhésion d'une façon ou d'une autre, même de façon tout à fait séculière, je dirais, mais une appartenance, une adhésion à une église parce qu'on est associé, affilié, ou on appartient, on s'identifie à une institution qui se trouve que cette institution est religieuse.
Alors j'ai entendu quand même que vous avez dit si ici en France, la laïcité, c'est le refus de la religion. Je vous interpelle sur ce que vous venez de dire et je demanderai à Anne-Sophie Lamine de réagir à ça.
Si vous voulez, c'est pas le refus de la religion. On a beaucoup discuté de la laïcité. On est arrivé. La laïcité était une notion qui allait de soi. On se posait même pas la question jusqu'à l'arrivée de l'islam dans l'espace public. Tout d'un coup, on dit non, la France est laïque et on n'arrive pas. Je me souviens des débats en 89. On n'arrivait pas à définir la laïcité, la neutralité de l'État ou l'anticléricalisme. Finalement, la laïcité s'est imposée comme une religion officielle en France. Mais cette religion officielle demande aux autres religions de ne pas exister dans l'espace public. Donc c'est là où je dis que c'est peut-être refus, et je suis allée un peu trop loin, j'aurais pas dit refus, mais...
On écoute tout ce que vous dites.
Oui, d'accord, merci. Mais j'aurais pas dû dire refus peut-être, mais en même temps, c'est ne pas reconnaître une religion dans l'espace public, quelle que soit cette religion, sauf la laïcité.
Alors, donc, je me tourne vers Anne-Sophie Lamine. Comment vous réagissez aux propos de Riva Castoriano ?
Je crois qu'effectivement, et on l'a vu récemment avec l'anecdote, si je peux dire, mais ce n'est pas si anecdotique, de l'histoire du rabbin de Toulouse qui a manqué de ne pas pouvoir voter parce qu'il est rentré dans un bureau de vote avec sa kippa. On voit bien, effectivement, ça va dans le sens de ce que vous disiez, qu'il y a en tout cas des crispations vis-à-vis d'une visibilité du religieux, d'une visibilité de symboles religieux, alors que ça fait tout simplement partie de la liberté religieuse, justement, de pouvoir porter un signe religieux, que ce soit pour voter dans la rue ou autre. Donc effectivement, on peut dire que cette laïcité, elle est devenue progressivement, d'une part, de manière très partagée, une sorte de valeur nationale, et d'autre part, pour une partie des acteurs publics, qu'ils soient politiques, qu'ils soient dans certains cas militants associatifs, quelque chose d'un peu militant, de volonté d'invisibilité du religieux et des signes religieux.
Dans l'espace public.
Oui, voilà, mais dans un espace public qui appartient à tout le monde. Donc ça s'est étendu bien au-delà des serviteurs de l'espace public, des personnes qui représentent le service public.
Alors on peut peut-être essayer de faire une distinction entre l'espace public qui appartient à tout le monde, qui pourrait être considéré comme étant la rue aussi, et les lieux publics qui permettront d'être plus clairs dans ce qu'on voit comme application de la laïcité aujourd'hui. Anne-Sophie Lamine.
Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que je trouvais que, malheureusement, cet exemple était un peu frappant, tout comme est frappant aussi la répétition, tristement frappant, la répétition de jeunes femmes qui se font agresser dans des lieux publics parce qu'elles portent un foulard visible. Et effectivement, il y a une grande différence entre la neutralité que doit avoir, par exemple, une enseignante face à ses élèves à l'école, et l'individu, le citoyen, n'est pas supposé être habillé de manière neutre dans l'espace public.
Alors, dans votre livre, justement, vous dites que cette question du conflit religieux mérite de dépasser la question du rapport entre espace public et religion, et qu'elle va se loger ailleurs que dans cet espace public qu'on vient de définir.
Oui, finalement, cette question, elle va se loger dans beaucoup d'endroits. Elle va se loger dans l'imaginaire qu'on a de l'altérité. On a un imaginaire de l'altérité où finalement, alors que dans beaucoup de domaines, on ne conçoit pas qu'on vive les choses à 100%, personne, parce qu'il vote d'habitude pour tel ou tel parti, se considère par exemple 100% d'accord avec ce parti, 100% d'accord avec certaines convictions. Il y a des moments d'hésitation, des moments de critique. Et tiens, quand on regarde les personnes qu'on considère comme religieuses ou très religieuses, là on imagine qu'elles sont 100% religieuses, 100% tout le temps religieuses. Donc il y a déjà une sorte de représentation du religieux où finalement les non-religieux, les personnes qui sont critiques du religieux sont en quelque sorte plus fondamentalistes, je veux dire, dans la lecture qu'ils ont de ce qu'est le religieux. Bien sûr, je dis ça avec humour, ils considèrent que le religieux c'est toujours du 100%, c'est toujours du à fond. Or, les personnes qui ont, entre autres, comme élément de leur identité, un attachement à un courant religieux, d'abord, c'est un élément de leur identité parmi d'autres. Et en plus, par rapport à ça, elles sont comme tout le monde. Elles ont des moments d'intensité, des moments de recul, des moments de questionnement, de doute. Voilà. Et ça, on l'oublie tout simplement. Donc, c'est un des éléments qui me semble important aujourd'hui à se dire quand on parle du religieux. On a un imaginaire sur le religieux qui est anthropologiquement absolument pas réaliste.
Riva Castoriano, vous partagez cette analyse ?
Ce que j'ajouterais là, c'est pas par rapport à l'attitude religieuse ou pas religieuse des individus dans l'espace public, c'est comment ce débat sur la laïcité, qui est devenu la laïcité qui était un principe fondateur, si vous voulez, de la séparation de l'Église et de l'État, est devenu d'un principe, c'est devenu une idéologie défensive. Donc, ce discours défensif autour de la laïcité crée des attitudes, des réactions dans la société civile qui met les individus mal à l'aise. Alors, on ne sait plus qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui n'est pas religieux. Est-ce que porter un foulard, c'est religieux? Est-ce que porter une kippa, c'est religieux? C'est traditionnel, c'est culturel? On ne sait plus. Mais, bien sûr, il y a l'interprétation religieuse de toute cette visibilité. Mais là, c'est justement, ça nous ramène encore au principe de la laïcité qui avait été définie au départ. La laïcité ne nous a pas interdit, n'a pas interdit aux citoyens de ne pas être religieux, mais de maintenir sa religiosité dans le privé.
Donc on est avec espace privé et espace public. Toujours.
Donc justement cette crispation autour de la laïcité et autour de la religiosité qui se confrontent aujourd'hui est venue par la visibilité. Sinon jamais, quand on voyait des religieuses marcher dans la rue, on se disait pas la France est laïque, qu'est-ce qu'elles font ces religieuses dans la rue. Quand Abbé Pierre s'était présenté à l'Assemblée nationale avec sa soutane, on s'était jamais posé la question. Mais tout d'un coup, le foulard, il y a, comme vous dites, l'altérité, il y a la crispation, l'altérité, la peur. Et c'est pas par hasard que c'est venu en même temps que l'affaire Rushdie et tout le reste. Il y a quelque chose de plus général qui dépasse les frontières de chaque État en Europe et que chaque État veut se recentrer en devenant défensif sur un principe qu'ils ont établi comme le cœur de leur nation, le cœur de leur idéologie. Donc la laïcité est devenue une idéologie. Donc l'idéologie qui refuse.
Ah ben vous revenez sur ce que vous disiez.
Une idéologie qui refuse la religion dans l'espace public.
Donc on va essayer de sortir de l'hexagone et de voir comment dans d'autres pays que vous avez étudiés, notamment l'Allemagne, je n'ose plus dire laïcité pour Allemagne, comment vous diriez
sécularisme, pluralisme religieux.
Voilà, alors comment ça se passe?
Écoutez, juste pour vous donner l'exemple du foulard en France, quand on avait tout ce débat en 89 sur le foulard en France, les collègues allemands ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez que vous avez des musulmans en France. Pourquoi cette agitation? Pourquoi cette animation? On ne comprend pas. Nous, on sait qu'ils sont là et qu'ils sont en foulard, etc. Et là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence. Et je pense que, d'une part, c'est vrai que dans les deux espaces publics, dans la rue, la visibilité de l'islam est évidente. Mais la différence, c'est que chez nous, l'histoire de foulard est venue avec une rhétorique de citoyenneté. C'est pas par hasard, c'est venu juste après la commission des sages sur qu'est-ce qu'un Français. Donc, si on est citoyen, agissons comme citoyen. En Allemagne, ils n'étaient pas citoyens. Comme ils ne sont pas citoyens, c'est la rue est à tout le monde, qu'ils soient comme ils veulent. Et là, en Allemagne, la question du foulard et l'interdiction du foulard est arrivée quand une institutrice plutôt, afghane, s'est présentée en cours avec le foulard. Là, elle a été interdite de cours. Elle est allée à la Cour constitutionnelle d'Allemagne, elle est allée à la Cour européenne de justice, mais parce qu'on lui a refusé d'enseigner avec le foulard. Et là, je me suis dit, là aussi, dès que ça touche la citoyenneté, elle est citoyenne pour être institutrice, dès que ça touche la citoyenneté, qui est une appartenance aussi à cet État, avec ses principes, donc on met ses limites.
Alors, Anne-Sophie Lamine, dans votre ouvrage, vous avez fait des comparaisons entre les différents types de dangerosité des conflits sociaux, conflits religieux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Des conflits sociaux, des conflits religieux, des conflits politiques?
Eh bien, en fait, finalement, il faudrait distinguer qu'est-ce qu'on se représente comme étant le plus dangereux et qu'est-ce qui est réellement le plus dangereux. Parce qu'il est vrai qu'en fait, on a cette idée que les conflits, dès qu'ils touchent à du religieux, mais pas seulement à du religieux, aussi on pourrait dire à de l'ethnique ou à des questions morales, sont des conflits en quelque sorte non négociables, donc finalement dangereux. Puisqu'il serait en quelque sorte insoluble. Alors que s'il s'agit de négocier une augmentation de salaire, bon, on va peut-être couper la poire en deux, mais on se dit que c'est toujours soluble s'il s'agit d'un conflit de terrain aussi entre des voisins. Mais en même temps, et c'est ce que montrent nos études qu'on a fait donc avec cette équipe de chercheurs, finalement, les acteurs sur le terrain ont une énorme capacité d'ajustement. J'ai envie de dire, le terme qui me semble important, c'est le terme ajustement plutôt qu'accommodement.
Alors on va quand même
peut-être
préciser...
qu'on y reviendra tout à l'heure.
Oui,
mais c'est-à-dire
ça fait référence à Charles
de,
Taylor.
De trouver, voilà, on reviendra peut-être tout à l'heure sur la question d'accommodement. Mais oui. je donne un exemple. Un ajustement, ça peut être par exemple plutôt que de se crisper sur des questions de porc ou pas porc, se dire que finalement, s'il y a un menu végétarien, tout le monde y gagne. S'il y a un menu végétarien, il y a de plus en plus de familles où on mange peu de viande, ils y gagnent. Il y a des familles où effectivement on ne mange pas de porc, ils y gagnent. Voilà. Donc ça peut être aussi en prison, quand on regroupe les gens, ben, on va éviter de mettre quelqu'un de très pieux avec quelqu'un qui est plutôt allergique à la religion. Mais tout comme on ne mettra pas un fumeur et un non-fumeur ensemble. C'est-à-dire qu'on va dire ben, la religion, c'est une caractéristique comme les autres, de façon pragmatique, plutôt que d'être crispé dessus. Donc finalement, ce qu'on s'est rendu compte en travaillant sur ces questions de conflits liés aux religieux, c'est que si les acteurs avaient la volonté de chercher des solutions, ils étaient très créatifs pour en trouver, et c'était pas du tout contraire à la laïcité, c'était simplement des ajustements de bon sens, de pratique.
Alors jusqu'où peut-on aller dans ces ajustements, par exemple sur l'égalité entre hommes et femmes, qui est peut-être pas la même chose dans la religion de l'islam et chez nous
Bon, même, enfin... L'égalité entre hommes et femmes, finalement, dans des ajustements, on va la trouver où ? Est-ce que, par exemple, si on se dit qu'on refuse à une jeune femme, comme certains politiques le souhaiteraient, de pouvoir aller à l'université avec un foulard, ce sera pour l'égalité de la femme, ça ? Je pense qu'en fait, on n'est pas... Enfin, les acteurs politiques, sociaux, de l'éducation ne sont pas là pour juger ce qu'il y a dans des théologies, dans certains discours théologiques, mais sur les effets pratiques que ça a. Et l'effet pratique, par exemple, d'empêcher quelqu'un qui a un foulard d'étudier est justement contraire à l'égalité. Quant à celle qui porte son foulard, il se peut qu'elle soit autant ou même plus féministe qu'une autre qui ne le portera pas. Mais ça, c'est peut-être une autre question. Donc voilà, moi j'irais regarder plutôt sur les effets pratiques de ce qu'on fait que sur des supposées théories inégalitaires ou théologies inégalitaires. Bien sûr, un grand nombre d'acteurs religieux, en tout cas parmi les plus conservateurs, ont plutôt une vision très différentialiste, voire inégalitaire de la femme. Mais c'est pas notre objet quand on résout des questions pratiques. C'est de regarder les effets que ça a pour les personnes.
C'est-à-dire que là, je pensais la question de conduire. Une femme peut passer son permis de conduire.
Avec un foulard ?
Ah ben... Oui, avec un foulard.
Oui, je crois pas que ça l'empêche de conduire un foulard. Oui, bien sûr.
Alors, on va y revenir. On parlait tout à l'heure d'accommodement. Hein, voilà. Oui. Donc, ma question, c'est à partir de quel moment ces ajustements, mais que Charles Taylor, qui est donc notre pape du communautarisme, à partir de quel moment ces accommodements ou ces ajustements raisonnables deviennent-ils des renoncements déraisonnables ?
Ben, par exemple, pour revenir sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, ce qui me semble très raisonnable, c'est de trouver une solution de sortie par le haut, comme le repas végétarien à la cantine, parce qu'il va rassembler d'ailleurs des enfants qui mangent végétarien pour des raisons très diverses. Et ce qui serait beaucoup moins raisonnable, et même déraisonnable, ce serait le repas halal, parce que du coup, en fait, ça regrouperait des enfants. En plus, certains même se stigmatiseraient des enfants supposés de leur groupe, mais qui ne mangent pas halal. Enfin, donc ça, ce serait par exemple un cas déraisonnable vis-à-vis d'un cas raisonnable. Il me semble que l'exemple là est assez parlant pour montrer la différence.
Riva Castoriano, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Là, pour le dernier point, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, s'il y a des repas halal, du coup, ça mais à part ceux qui ne vont pas manger du porc. Végétarien, oui, mais moi, je m'étais dit qu'il faut quand même calculer le nombre de protéines, le nombre de vitamines qui viennent sur chaque plateau pour que chaque enfant ait une part égale, plutôt que halal ou pas halal. C'est ma réflexion, mon réflexe plutôt laïque. Mais si vous voulez, je pense que derrière tout ça, que ce soit le plateau, les cantines, ou bien la maman qui va chercher son enfant en foulard, ou la femme avec le foulard qui va conduire, etc. C'est une réaction, à mon avis, des deux côtés qui sont devenus idéologiques. Et dès lors qu'on met idéologie dans cette attitude, dans cette réaction, résultat des crispations, résultat des ambiguïtés, résultat des mensonges, résultat des hypocrisies, à la fois de la part, surtout de la part des discours politiques et de la rhétorique idéologique de chaque État. Et je pense que dès lors que cela se traduit ou bien conduit à une certaine idéologie, ça devient dangereux. Et c'est dangereux. Et là, je pense que le conflit peut ne pas être négociable et je pense qu'il faut arriver à négocier avant d'en arriver là. Donc avant que, justement, maintenant, avec tout ce qu'on voit, avec ces jeunes qui se transforment en bombes ou je ne sais trop quoi, ça veut dire comment ils ont intériorisé cette crispation et l'utilisent avec un discours idéologique, peut-être même pas avec une conviction religieuse, et je suis convaincue que ce n'est pas une conviction religieuse, mais un usage idéologique d'un malaise, d'un mal-être, de ne pas avoir sa place, qui réagit par rapport, et les États aussi, et quand on a cette instrumentalisation et la compétition entre les partis politiques qui l'utilisent, à mon avis, il y a une confrontation des idéologies. On est arrivé à ce stade. Et donc, quand moi, je pensais à négocier l'identité, on n'en était pas là. Et donc maintenant, comment éviter encore, qui est possible, parce que l'autre, c'est un cas minime, enfin, c'est pas général, c'est tout petit, c'est infinitésimal parmi les populations concernées, et quand même arriver à quelque chose de plus souple et plus sincère dans la définition de soi et dans la définition de l'autre.
Alors, négocier l'identité, je reviens sur cette formule qui est vôtre. Est-ce que, selon vous, le multiculturalisme est l'une des solutions pour cette cohabitation apaisée entre religion et nation? Puisque là, on revient encore à votre thème de recherche. Riva Castoriano.
Pardon, excusez-moi. Si je défends le multiculturalisme ici, je vais être totalement excommuniée. Donc, je ne vais pas défendre le multiculturalisme. Mais je vais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette idée de multiculturalisme. Le multiculturalisme, au départ, c'était, voilà, on est différent, on a des cultures différentes, on existe sur le même territoire, on partage le même espace public, on n'a qu'à développer ensemble des valeurs communes politiques. J'entends pas, c'est l'autre mange là, l'autre mange cachère, ça m'est égal. Mais dans le système politique, on partage les mêmes valeurs. On a la même socialisation politique, on passe par les mêmes institutions partageant cet espace. Et mettons nos intérêts culturels, communautaires, ailleurs, même si ces intérêts peuvent participer, peuvent investir l'espace politique. Donc essayons de trouver un compromis. Et comme, puisque vous citez Charles Taylor, son terme, c'est compromis historique. Comment on peut arriver là? On y est. Mais le discours rejette l'attitude inclue. C'est ça qui est spécial en ce moment. Bien sûr, quand on dit le multiculturalisme est un danger, effectivement, l'exemple de l'Angleterre, c'en est un. L'exemple de l'Angleterre, c'en est un parce qu'ils ont perdu les autorités locales sur lesquelles repose vraiment la vie communautaire, la vie locale et même la vie politique en Grande-Bretagne, ont perdu le contrôle de ces communautés. Il n'y a pas eu ce dialogue, cette interaction, cette collaboration, si vous voulez. Maintenant, ils veulent le faire, c'est pire. Alors, du coup, une fois qu'ils ont perdu le contrôle et vu l'évolution, ça devient dangereux parce que le multiculturalisme devient une question de sécurité et non plus d'identité, de partage, d'espace public, de socialisation politique, de valeurs politiques communes, de la vie civique. Donc c'est là où je pense que si le multiculturalisme avait quelque chose de positif, c'était l'idée ou la volonté ou même l'incitation à partager un espace. Et ce qui est déplorable, c'est que le discours qui a accompagné le multiculturalisme et la réalité du multiculturalisme a créé des divisions, des frontières, comme j'ai vu dans un des titres de votre ouvrage, des frontières réelles et symboliques entre les populations qui s'identifient à telle ou telle communauté et qui vont investir l'espace public avec cette identité.
Anne-Sophie Lamine, vous partagez ce point de vue ?
Oui, très largement. Moi, j'ajouterais à cela qu'il me semble que, d'une part, sur toutes ces questions, on sous-estime la diversité dans la diversité. C'est-à-dire qu'au sein même, par exemple, d'un groupe religieux, mais aussi d'un courant au sein de ce groupe religieux, il y a une énorme diversité. On sous-estime aussi comment les acteurs religieux sont finalement dans une solidarité sans consensus à l'égard de leur groupe. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires, parce qu'ils en ont marre, d'ailleurs, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient musulmans, qu'on tape sur leur groupe. Mais ils ne sont pas pour autant en consensus avec lui. Et le troisième point, c'est que je crois qu'on a du mal à comprendre, en France en particulier, qu'on peut faire du commun, on peut fabriquer du commun à partir du particulier. C'est-à-dire qu'on peut, de manière extrêmement citoyenne, par exemple, produire un média. Je dirais par exemple un média musulman, on peut être journaliste musulman de manière extrêmement citoyenne en faisant son métier de journaliste avec l'exigence de journaliste. Je pense parce que je viens de faire un travail qui va sortir sous peu sur le média Safir News, et là, qui est donc un média musulman en ligne, et là on voit finalement comment on fait du commun à partir du particulier en partageant les valeurs qui sont les valeurs communes. Et donc finalement, il y a ce jeu de, on pourrait dire là, de dédifférenciation. C'est-à-dire, en fait, on veut être un journaliste comme les autres, tout comme des mamans veulent être des mamans comme les autres, etc., bien sûr. Et on est dans ce jeu, je pense, dans l'espace public, à la fois de surdifférenciation, c'est-à-dire en assignant les gens à être tellement différents et à n'être que musulmans, et inversement, et face à ça, eux, parfois, renchérissent sur cette différenciation, comme Riva vient de le dire, mais en même temps, ont aussi, paradoxalement, cette volonté, ou parallèlement, cette volonté de dédifférenciation, c'est-à-dire tout simplement d'être citoyen comme les autres.
Donc c'est le droit à l'indifférence.
Exactement, hein? Voilà, tout à fait.
Alors, on va rester dans le domaine un peu politique aussi, Anne-Sophie Lamine, et comme pour d'autres religions, les musulmans sont-ils ou ne sont-ils pas un enjeu électoral ?
Ah, alors bon, en fait, on s'est dit ça parce que on a montré qu'au moment de l'élection de Hollande, en fait, en gros, un bon 80% des musulmans avaient voté pour lui. Mais c'était aussi largement un effet anti-Sarkozy, pour dire les choses rapidement, un effet, une conséquence d'expressions comme le Karcher et autres. En fait, évidemment, ces questions-là viennent, mais finalement, on se rend compte avec les dernières enquêtes, il me semble, qu'il y a là une certaine diversité dans le vote musulman et dans les identifications politiques. Et que s'il y a, à cause des positions socio-économiques, une propension probablement bien supérieure à la moyenne, à une demande d'égalité et de redistribution. Par contre, du côté des valeurs, en tout cas pour les plus pratiquants, il y a des valeurs qui seraient, d'ailleurs comme chez les catholiques, plus conservatrices. Donc ces choses-là se combinant, je pense que c'est un peu rapide de dire qu'il y a tout simplement un vote musulman.
Riva Castoriano.
Moi, je pense que c'est un enjeu électoral, effectivement. C'est un enjeu électoral à la fois pour ou contre, peu importe le candidat, qu'est-ce qui prime dans cet enjeu électoral ? Est-ce que c'est là que je regarderai d'abord, je souhaiterais vraiment que ce soit un enjeu électoral parce que j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience politique, de participation à la vie politique, et alors que c'est un peu défaillant, je pense, dans la population issus de l'immigration musulmane, dans la mesure où ils n'ont pas développé cette attitude, ils n'ont pas la culture de minorité, si j'ose dire, et c'est pas le même enjeu que chez les Juifs, par exemple, qui sont beaucoup plus mobilisés, qui jouent sur la carte électorale. Et les musulmans, malheureusement, je dirais, ne le font pas parce qu'ils ont aussi des intérêts à jouer, à développer, à mettre les politiques face à leurs intérêts. Et, mais en même temps, je pense là, si jamais on parle d'un vote communautaire ou communautariste, si jamais on dit, ma directrice de thèse a toujours rejeté alors qu'elle travaillait là-dessus, vote juif, vote musulman, vote catholique, vote protestant, ou je ne sais trop quoi, ou vote féminin, ou vote masculin, vote gay... Tout ça, ce sont des groupes d'intérêt qui sont organisés autour des associations qui pèsent. On a vu pour les mariages, pour tous, ils étaient tous dans la rue. Là, on a oublié la laïcité française. Elle n'existait pas. C'était la culture catholique qu'il fallait défendre. Mais cette culture catholique, elle est dans la laïcité ou elle ne l'est pas? Elle en fait partie ou pas? Donc, tous ces gens, toutes ces mobilisations, toutes ces revendications font partie d'un enjeu électoral. Et que ce soit, si dès lors qu'on le met avec une étiquette d'appartenance religieuse, puisque c'est le clivage dans cette société, ça devient vote musulman, vote juif. Et je pense que c'est là l'important, c'est de voir dans le vote ethnique, si j'ose dire, pour dire plus vite, qu'est-ce qui prime ? L'intérêt économique ? Les intérêts particuliers ? Les intérêts identitaires ? Les intérêts locaux, qu'est-ce qui prime ? Moi, j'avais vu une étude sur les Turcs pendant les élections présidentielles. Et les Turcs de Strasbourg-Saint-Denis, le quartier de concentration, préféraient Sarkozy parce qu'ils étaient tous hommes d'affaires. Ils se fiaient plus sur Sarkozy pour leur émancipation économique que Hollande, gauche, d'accord, mais peut-être plus de foulard, peut-être, mais bon, c'était pas ça. L'intérêt économique était plus important. Là, je pense que la mesure des intérêts, lorsqu'on fait ce genre d'études, est beaucoup plus importante pour mesurer l'aspect universel d'un vote ethnique, comme aux États-Unis.
Alors justement, avant d'aller aux États-Unis, on va revenir en Allemagne. Vous parliez des Turcs. J'aimerais bien que vous nous fassiez une petite présentation de la manière dont ça se passe en Allemagne.
La manière dont ça se passe en Allemagne, si vous voulez. Quand je travaillais sur ce livre, et j'ai continué bien sûr à suivre un peu le terrain en Allemagne, la question était tout autre. La question ne se pose pas de la même façon, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes relations historiques avec le pays, c'est pas un pays qui a été colonisé, ils se sont jamais dit allemands, alors que nous ici on a obligé, ou bien on a fait croire aux Maghrébins qu'ils étaient français, et eux ils étaient turcs. C'est tout. Mais, bien sûr, la citoyenneté était une valeur. Il fallait absolument défendre la citoyenneté, il fallait la revendiquer, mais la citoyenneté est un droit. Et ne touchait pas à l'identité, puisque l'essentiel était d'avoir la double nationalité. L'Allemagne a changé les lois, la double nationalité n'est pas encore à l'œuvre, ça ne va pas tarder, parce qu'à 18 ans, il va falloir choisir. Mais bon, je pense que la majorité va choisir la nationalité allemande, plutôt que la double ou la turque, parce qu'une fois allemand, bien intégré, même assimilé, je dirais, tout en étant turc, puisque maintenant, ce n'est pas contradictoire, ça ouvre l'horizon économique dans le monde. Et c'est donc maintenant, toute immigration, on est arrivé là. Et moi, je pense que les pays européens sont en compétition avec les pays d'origine pour les plus intégrés, les plus qualifiés.
On va revenir encore à la religion. Selon vous, est-ce que la religion est un élément déterminant de la construction d'identité, Riva Castoriano?
Un des éléments, tout dépend des interactions, face à quoi on se trouve. Si on se trouve face à une laïcité qui vous acharne, vous devenez religieux. Si vous vous trouvez face au, je ne sais pas moi, dans une association militante de changement climatique, non. Tout dépend de comment vous allez vous identifier, dans quel contexte. Identité, il n'y a pas un élément fondateur de l'identité. L'identité, ça change. Les frontières sont flexibles. On prend dans l'un, on prend dans l'autre. Tout dépend face à quoi on se trouve. Et même pour les États, la France est devenue laïque face à l'islam, par exemple, se définit comme laïque officiellement face à l'islam.
Oui, enfin, il y a quand même la notion de laïcité qui a été...
elle l'avait
gestation dans, au siècle des Lumières, bien ensuite sûr, à la Révolution, bien ensuite bien la sûr. Loi de 1905.
Bien sûr.
Et donc, mais... elle n'a pas attendu l'islam pour affirmer une laïcité, la France.
C'est sûr, mais elle n'est pas devenue, elle n'était pas défensive.
D'accord. Donc là, elle c'est n'était la, pas, la, elle laïcité n'était pas comme bouclier. C'est,
laïcité
c'est ça.
Comme bouclier, laïcité comme progrès, laïcité comme modernité, laïcité comme séparation de l'Église de l'État.
Oui.
Bon, bien c'est sûr. C'est ça. Mais laïcité comme, si vous voulez, comme défense, comme imposition, comme la façon dont elle apparaît avec des, je dirais pas des sanctions, mais des répressions. Non,
c'est, les répressions sont que quoi c'est que... par exemple l'interdiction du port du voile.
Ça, je suis d'accord.
Voilà. C'est quoi une répression alors
À mon avis, c'est plus dans le débat public plutôt d'accord. que dans la réalité. C'est oui, plus dans le voilà. débat public et qui dérange. C'est alors que dire, 1905, oui. c'était la loi.
Oui.
D'accord. Là, c'est la loi, on le sait, c'est séparé, on sait à quoi s'en tenir. Avec cet élément discursif de la laïcité, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Il y a la loi contre de 2004 qui interdit le foulard oui. à l'école. C'est clair, on le sait. Le reste devient rhétorique. La loi qui interdit la loi, enfin, circulaire, ou je ne sais pas si c'est...
Laquelle
qui interdit la burqa.
Oui, dans c'est la loi, hein, je crois. Oui,
c'est
oui,
devenu
oui.
une loi.
Oui, oui, bon, tout à fait.
Là aussi, c'est une loi, d'ailleurs, qui était caricaturale, puisque ça concernait très peu de personnes. Et depuis, on a eu très peu de cas qui ont été concernés par cette loi. D'accord, c'est clair. Le reste, moi je pense qu'en France, le plus grand problème, c'est la rhétorique qui prend une autre forme que la loi et qui étend et qui, étend et qui élargit et qui élabore un discours plus d'exclusion que d'inclusion.
Anne-Sophie Lamine, est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Ben oui, par exemple, sur ce dernier exemple, un des domaines dans lequel ça a des conséquences pratiques quand même, et pas seulement rhétoriques, c'est le cas des mamans, des mères d'élèves. Je repense, le nom de la ville m'échappe, c'est dans l'Oise, à Mérou, c'est ça. Quand il y a une maman l'année dernière qui a... maman portant un foulard, pas un grand foulard, un petit foulard, qui a voulu, qui proposait d'aider au goûter de Noël et qui en a été exclue, enfin qui n'a pas pu le faire. Bon, mais ces cas-là, en fait, là, on est idéologique et pas pratique, parce que la pratique, ce serait de se dire en quoi c'est important pour un enfant que sa maman participe. Et puis accessoirement, si elle voulait participer au goûter de Noël, c'est donc qu'elle n'était pas dans le monoculturalisme ou dans le rejet de l'altérité, elle, puisqu'elle est comme musulmane. Voilà, donc il me semble qu'effectivement, il y a des éléments comme... Il y a aussi parfois des éléments pratiques. Et on va voir aussi, je pense, de plus en plus apparaître le fait que certaines personnes qui seraient certaines, peut-être prêtes à... hésiteront même à enlever leur foulard parce que ça devient un élément important de l'identité puisqu'on s'est beaucoup battu pour pouvoir le porter. Donc en fait, on renforce aussi, par ce discours, renforce après des éléments tout à fait pratiques. Moi, j'ai même entendu parler d'une jeune femme qui ne garde son foulard qu'au travail parce que ça ferait trop plaisir à ses collaborateurs et à ses chefs qu'elle l'enlève.
Alors on va aller voyager. Vous parliez des États-Unis, Riva Castoriano. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la manière dont ça se passe aux États-Unis ?
La différence entre la France et les États-Unis, c'est le rôle de l'État et de la société civile. Tout se passe dans la société civile. L'État n'intervient pas. L'État n'intervient pas dans tout ce qui est religieux, j'entends, dans tout ce qui est... Le religieux relève de tout ce qui est expression de liberté religieuse, organisation en association, adhésion, mobilisation, groupe d'intérêt dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour nous, les États-Unis ne sont pas laïcs dans la mesure où ils remercient Dieu. Ils ont Dieu sur le dollar. Et moi, ma première année, j'étais très choquée par le Thanksgiving, qui est un remerciement à Dieu. En fait, c'est un concept religieux, le Thanksgiving. C'est, ils ont découvert l'Amérique, ils y vivent, ils sont très heureux. Donc, vive l'Amérique, merci mon Dieu. Et pour moi, c'est religieux. Pour eux, c'est la fête la plus laïque, séculière, si vous voulez. C'est la... Parce qu'il n'y a pas de différence religieuse. Quiconque est aux États-Unis et apprécie les États-Unis et vit aux États-Unis, profite des opportunités offertes par les États-Unis, remercie le bon Dieu d'être là. Donc, si vous voulez, la conception religieuse est abstraite et dans l'usage politique, alors que la réalité se passe dans la société civile, l'appartenance à une congrégation, l'appartenance à une communauté, etc. Est-ce que cela se transforme en politique ? Oui, il y a des lobbies, comme les lobbies des vendeurs d'armes, par exemple, comme des... mais ça n'intervient pas dans la vie politique. Alors maintenant, la question se pose de la même façon avec l'arrivée des musulmans. Est-ce qu'ils vont suivre le même phénomène ? Quand vous me dites... Est-ce que la nation a une religion ? Oui, l'Amérique se pose la question, des auteurs américains, notamment Huntington, évidemment, c'est un cas extrême, qui se pose la question, est-ce que l'Amérique est toujours l'Amérique avec 30% de population immigrée catholique, par exemple, dans une nation qui était plutôt, qui s'est bâtie, pour le coup, sur des valeurs et sur une éthique protestante ? Est-ce que cette éthique, non pas du point de vue religieux, mais du point de vue éthique, va continuer avec l'arrivée des catholiques ? On ne parle pas encore des musulmans. Quoique là, les musulmans, ça va être l'adaptation, la reconnaissance, l'institutionnalisation, leur association, contrôle des mosquées, etc.
Alors, on arrive à la fin de ce débat. Est-ce que vous pourriez me dire, Riva Castoriano, de quel... modèle dans des pays étrangers, on pourrait s'inspirer, ou est-ce que notre modèle ici en France est satisfaisant ? Et je poserai aussi la même question à Anne-Sophie Lamine, en l'élargissant et en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le tout. Riva Castoriano.
Je défendrai le système français, je défendrai la laïcité française, je défendrai la séparation. Je mets à condition qu'on la définisse, qu'on la clarifie, qu'on dise de quoi il s'agit. Quand vous arrivez à une conférence où vous avez des imams qui vous disent « on nous dit d'être laïque, je veux bien, mais je suis imam, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc je veux qu'on donne des modes d'emploi de la laïcité. Et je ne veux pas que ce soit juste une rhétorique défensive qui va rendre l'autre aussi défensive et qui va l'exclure de cette identité. Je ne veux pas que la laïcité soit la définition de la nation. Je veux que la laïcité soit un principe qui inclut et qui donne un certain équilibre pour éviter tout conflit autour de religieux dans nos sociétés. Et c'est pour ça que je défendrai. Que cela se passe dans le cadre de la société civile, c'est impossible en France d'écarter l'État de toute initiative de société civile, mais qu'on laisse la rhétorique, qu'on laisse les discours, qu'on arrive à des pratiques, qu'on arrive à définir de quoi on veut parler pour inclure ceux qui se sentent exclus par la rhétorique.
Anne-Sophie Lamine.
Oui, tout à fait, parce que de toute façon, chaque contexte national a sa propre histoire et on va pas la refaire. On l'a dit, on a eu les guerres de religion, etc. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une laïcité plus apaisée, plus pragmatique et une meilleure connaissance, certainement, du fait religieux pourrait aider à cela, à ce qu'on ait un regard moins crispé. Et puis peut-être une sorte de dédramatisation, c'est-à-dire en voyant la religion comme un attachement, comme un autre, comme d'autres sont, aiment la musique, aiment la politique, sont militants écologiques à divers degrés. Certains sont très militants, d'autres de plus loin. Eh bien, de la même manière, finalement, certains ont un idéal religieux et des pratiques religieuses et éventuellement une discipline de soi religieuse, tout comme on a une discipline de soi quand on joue du piano ou qu'on s'entraîne pour le marathon.
Merci, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.